Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Des centres fermés sur le modèle du HCR et des sanctions contre les États européens qui ne seraient pas solidaires quant à la répartition des demandeurs d'asile. Ce sont là les propositions d'Emmanuel Macron et de Pedro Sanchez, précision de Franck Madvon. Des dizaines de milliers de Britanniques pro-Brexit demandent un deuxième référendum sur l'accord final qui sera négocié avec Bruxelles. Istanbul, mère de toutes les batailles, les deux poids lourds de la présidentielle turque ont donné de la voix à la veille du scrutin. Recep Tayyip Erdogan, nomade, Muharrem İnce, statique sur le front de mer. Géraldine Allot a suivi le meeting du principal rival du président sortant. Et puis, les campagnes françaises souffrent de la disparition des services publics de proximité. Manifestation à Paris, reportage de Sarah Maquet. Sauvetage en Méditerranée centrale, 185 personnes secourues au large de la Libye par les gardes-côtes libyens, 113 autres recueillies à bord d'un porte-conteneur danois au large du sud de l'Italie. Les autorités espagnoles ont mené 3 opérations dans le détroit de Gibraltar et au large de l'île de la Grande Canarie et débarqué dans les ports de Barbate et de Tarifa 569 réfugiés dans les eaux internationales en bordure des eaux maltaises. Le Lifeline attend vivres et couvertures pour prendre soin de ces 230 passagers, 230 miraculés de la traversée. Les ONG rappellent les textes sur ce qui oblige les États en termes de sauvetage et de débarquement des naufragés. L'Europe politique est plus que jamais divisée et à la veille d'une réunion à Bruxelles, censée préparer le sommet européen des 28 et 29 juin prochains, le chef de l'État français a reçu à l'Élysée le nouveau Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et les deux responsables ont arrêté un certain nombre de propositions à soumettre à leurs partenaires européens. Franck Madvon.
Emmanuel Macron soutient d'abord la proposition du président du Conseil européen, Donald Tusk, mettre en place des plateformes d'accueil des migrants dans les pays de transit, comme la Libye, pour y étudier leurs dossiers et préparer le retour au pays de ceux qui ne peuvent prétendre à l'asile, un travail à faire avec le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Mais le président français met une autre idée sur la table, aux côtés du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez.
Nous sommes favorables à mettre en place des centres fermés conformément au HCR, avec des moyens européens qui permettent d'abord une solidarité financière immédiate, une instruction rapide des dossiers, une solidarité européenne pour que chaque pays prenne les personnes qui ont droit à l'asile et que derrière, il y ait une solidarité européenne et une efficacité pour raccompagner dans une démarche de retour les personnes qui n'ont pas droit à l'asile vers leur pays d'origine.
Plusieurs pays européens, comme l'Italie ou la Hongrie, tiennent aujourd'hui une ligne dure sur cette question migratoire. Emmanuel Macron se dit prêt à des sanctions financières contre les États membres de l'UE qui refuseraient d'accueillir des réfugiés.
On ne peut pas avoir des pays qui bénéficient massivement de la solidarité de l'Union européenne et qui revendiquent massivement leur égoïsme national lorsqu'il s'agit des sujets migratoires.
Les tensions sont donc toujours aussi vives au sein de l'UE. L'Allemagne est pessimiste. Selon une porte-parole d'Angela Merkel, il n'y aura pas de solution européenne pour le moment.
La Grande-Bretagne et la France eurent bien des orages en matière d'accueil et de gestion des réfugiés de part et d'autre du Channel. Ce différend chronique a d'ailleurs alimenté les argumentaires des pro-Brexit. 2 ans après le référendum sur le dit Brexit, les pro-européens ne désarment pas. Ils ont déjà donné de la voix. Mais là, ce fut plus fort qu'avant. Ces pro-européens ont battu le pavé à Londres et ailleurs pour y voir clair sur ce que Brexit veut dire dans le détail. Londres, Marina Daras.
Les pro-européens ne perdent pas espoir face au Brexit. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale pour réclamer un deuxième référendum sur l'accord final qui sera négocié avec Bruxelles. Pour James Torrance, le leader du parti politique Renew, qui s'oppose au Brexit, le combat est loin d'être fini.
Les Brexiteurs ont fait des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir et tout le monde peut désormais s'en rendre compte. Les prédictions faites lors de la campagne sur l'économie, sur la difficulté à trouver un accord se révèlent être vraies. On peut toujours renverser le Brexit, mais pour l'instant, il faut continuer à se battre.
Sarah et Julie ont 20 ans et ont voté pour la première fois lors du référendum. Et pour elles, le Brexit a changé leur perspective d'avenir.
Quand le Brexit nous a été expliqué, il y avait tellement de possibilités que ça n'avait rien de très concret pour personne. Les gens ont voté à l'aveugle, vraiment. Donc ce serait vraiment important d'avoir la chance de pouvoir voter sur l'accord final, sur une idée concrète de ce que sera le Royaume-Uni post-Brexit.
Surtout parce que l'écart entre le oui et le non n'était pas grand pour une question tellement vague.
Alors que l'incertitude sur les modalités du Brexit persiste, la tension monte pour la Première ministre qui ne parvient toujours pas à clarifier la position britannique.
En Irak, le commandement conjoint des opérations militaires prétend avoir éliminé 45 membres de l'organisation État islamique lors d'un raid aérien mené dans l'est de la Syrie. Toujours en Syrie, à quelques kilomètres de la frontière de l'Irak, à Boukamal, le général de brigade Sharok Daipour est tombé au combat. Annonce faite cet après-midi par CEPA News, l'agence des gardiens de la révolution, l'armée d'élite de la République islamique d'Iran. Cette localité de Boukamal, nœud stratégique sur l'Euphrate, avait été reprise à Daesh en novembre dernier par les troupes gouvernementales syriennes, appuyées entre autres par des effectifs iraniens et afghans. Fin de campagne intense à Istanbul, clé de voûte électorale à la veille de la présidentielle turque. Quand Recep Tayyip Erdogan opte pour une succession de meetings dans différents quartiers de la ville, son rival et leader du Parti républicain du peuple, Muharrem İnce, se contente d'une seule et spacieuse estrade sur le front de mer. Reportage Clémence Bonfils et Géraldine Allou.
Passé maître dans l'art de galvaniser les foules, Muharrem İnce s'est adressé pendant plus d'une heure à des centaines de milliers de personnes regroupées sur le front de mer de Maltepe. Le charismatique candidat du CHP promet une Turquie différente s'il est élu. Il dit qu'il mettra fin à l'état d'urgence. Notre justice sera indépendante et équitable pour tous, promet-il. Tant que notre justice ne sera pas indépendante, il n'y aura pas de climat favorable au redémarrage de notre économie. Puis, comme une main tendue, au milieu conservateur et religieux qui vote traditionnellement pour Erdogan, il dit aux femmes voilées, lui, le candidat laïque, qu'elles pourront mettre leur voile à l'école, dans la rue, dans les institutions publiques. À la sortie de ce meeting monstre, ce jeune homme est conquis.
C'est la première fois que je vois autant de monde et c'est déjà une victoire. Muharrem İnce sait parler aux jeunes, il redonne de l'espoir et le sourire à la jeunesse. On en a assez de la rhétorique conflictuelle d'Erdogan. İnce est beaucoup plus apaisé, il est pour la paix et la fraternité.
Comme un signe supplémentaire que Muharrem İnce fait peur à Erdogan, son meeting était très peu retransmis sur les grandes chaînes de télévision turques, contrôlées par des proches du président.
Il est 18h07, vous écoutez le journal de France Culture. En France, la disparition des services publics de proximité a conduit la Coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité à prendre la parole. Place de la République à Paris, appel soutenu par le collectif Convergence des services publics. En ligne de mire, la suppression envisagée par le gouvernement de 120 000 fonctionnaires ainsi que le transfert de certaines missions au privé. Bonsoir Sarah Maquet.
Bonsoir.
Sarah, la plupart des participants venaient tout de même des régions rurales et pour cause. Elles sont ces régions rurales en première ligne.
Oui, et parmi les quelques pancartes, vues tout à l'heure place de la République, une quarantaine de militants venus de Ruffec. Ruffec en Charente, 4000 habitants, entre Poitiers et Angoulême. Il y a un an, la ville perd sa ligne de train direct avec Paris pour cause de LGV. La maternité de l'hôpital, elle est fermée depuis des années. Reste encore pour l'instant les urgences. 10 000 passages en 2017. Edith Pau, du comité de soutien à l'hôpital de Ruffec.
Depuis toutes les réformes, entre la T2A, entre la loi Bachelot, entre la loi Touraine, ont progressivement enlevé des morceaux, parce qu'il y a aussi la chirurgie qui a disparu en 2010, hein, donc c'est tout récent. Donc une des craintes, c'est avec le nouveau décret qui est du 31 mai, qui autorise les établissements sous couvert d'économie à ne garder qu'un seul médecin, à la fois pour l'accueil et pour le SMUR. Et ça, c'est dangereux pour les populations. C'est aussi très déstabilisant pour les personnels concernés. On sent bien qu'il y a des choses qui avancent et vite, parce que c'est pas qu'à Ruffec, c'est partout en France.
Une carte de France est d'ailleurs déployée un peu plus loin, au milieu de la place de la République, devant Hélène Derien, présidente de la Coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité, qui regroupe une centaine de comités.
Tous les points rouges symbolisent des établissements où il y a des difficultés.
La carte est entièrement rouge.
C'est énorme. Le pire, c'est les maternités. Donc où on avait à peu près 1200 maternités, on en a moins de 500 aujourd'hui. Ça désorganise le maillage territorial qui était pas mal finalement. On partait du médecin traitant, il y avait l'hôpital de proximité pour les choses courantes. Et donc si cet échelon saute, ça veut dire que ce sont des hôpitaux plus spécialisés qui vont avoir à traiter aussi du courant, alors qu'ils ne vont pas avoir forcément de moyens supplémentaires. Donc ça va être encore du renoncement aux soins.
Et cet après-midi, le collectif Convergence des services publics a présenté le résultat d'un questionnaire signé par 8000 personnes. Selon ses signataires, parmi les services qui ne devraient pas être gérés par le privé, on retrouve en premier lieu l'hôpital suivi par le train.
Merci à vous, Sarah Maquet. Météo France prévoit pour demain une belle journée, bien ensoleillée, sur la majeure partie du pays, des températures à la hausse. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique. Lisez-le.